Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, vous le savez. Un magazine que vous pouvez également télécharger afin de l'écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez également vous y abonner. Nous allons entamer cette nouvelle saison donc avec celui que certains considèrent comme le plus grand diplomate du XXe siècle et d'autres comme un criminel. Son nom, Henry Kissinger. Sa vie fut un véritable roman. Une vie qui l'a conduit, lui, le petit réfugié allemand arrivé à New York à l'âge de 15 ans, à diriger la diplomatie des États-Unis après être passé par Harvard, la prestigieuse université américaine. Nous avons choisi de parler de Kissinger parce qu'il incarnait aussi dans l'exercice de ses fonctions ce que l'on appelle la Realpolitik, l'école réaliste des relations internationales. Nous allons nous attarder sur cette notion. Notre invité est Jérémy Gallon, il a écrit « Henry Kissinger, l'Européen », un essai publié chez Gallimard. Bonjour Jérémy Gallon.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Merci d'avoir fait le voyage spécialement parce que vous vivez à Bruxelles et grâce au Thalys, vous êtes arrivé à l'heure pour cette émission. Je vous en remercie. Vous êtes diplômé de l'université Harvard, justement. Vous êtes un spécialiste de droit international. Vous avez été diplomate de l'Union européenne aux États-Unis et vous dirigez un cabinet de conseil géopolitique. On peut dire un mot sur ce cabinet déjà pour que les auditeurs vous fassent connaissance avec vous?
Oui, bien sûr, c'est un cabinet qui conseille sur toutes les questions de diplomatie, les grandes organisations internationales, mais aussi les acteurs privés. L'idée, en fait, le métier a été, et c'est l'ironie, inventé par Henry Kissinger lui-même en 1982, lorsqu'il a quitté le pouvoir. Et son idée était simple. Elle était de dire, aujourd'hui, les questions de politique étrangère deviennent tellement complexes que de la même manière que les grandes entreprises, les grandes organisations internationales sont accompagnées, conseillées par des avocats, par des banquiers, par des consultants, elles doivent être accompagnées par des diplomates. Et c'est toute l'idée de ce modèle de structure.
Décidément, Jérémy Gallon, vous marchez sur les traces d'Henry Kissinger, finalement, parce que vous êtes passé par Harvard aussi.
Oui, alors je ne prétendrai pas marcher dans ces traces, mais c'est une figure qui m'a toujours intéressé, voire passionné depuis mon adolescence. C'est d'abord le destin, vous l'avez dit, romanesque, celui d'un petit garçon juif qui naît en 1923 en Allemagne, dans la banlieue de Nuremberg, au cœur de ce qui va devenir l'enfer nazi, qui, quelques décennies plus tard, deviendra le plus grand diplomate de l'histoire américaine, quelqu'un qui fera et défera les régimes, qui façonnera l'échiquier géopolitique du XXe siècle de manière durable, quelqu'un qui, on l'a parfois oublié, est arrivé comme réfugié à l'âge de 15 ans, sans rien, dans le port de New York, quelques semaines à peine avant la nuit de cristal en 1938. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Quelques années plus tard, vêtu de l'uniforme de l'armée américaine, il reviendra en Allemagne combattre le régime nazi, ce régime qu'il avait dû fuir et que sa famille avait dû fuir dans la peur, dénazifier certaines régions dans lesquelles il avait grandi, et aussi découvrir que finalement, tout ce qu'il avait quitté, tous les souvenirs de son enfance auront été détruits entre-temps. La synagogue de son quartier, les maisons de son quartier, mais c'est aussi 13 membres de sa famille qu'il perdra dans la Shoah. Et donc, il y a quelque chose d'assez romanesque, d'assez extraordinaire dans le destin d'Henry Kissinger. Et un personnage aussi qui m'intéresse parce que c'est un personnage qu'on ne peut pas juger à l'emporte-pièce ou d'un revers de main, parce que sa vie est faite de nuances de gris.
J'ai beaucoup aimé votre livre, qui est un livre très, très complet, très vivant. C'est aussi une profession de foi européenne. D'ailleurs, le titre de votre livre, c'est « Henry Kissinger, l'Européen ».
Oui, tout à fait.
On voit que vous travaillez à Bruxelles.
Oui. Je considère que le grand défi de notre génération, c'est de bâtir une Europe plus forte. Parce que tout simplement, c'est la seule manière pour nous, Européens, de continuer d'écrire l'histoire face à la Chine, face aux États-Unis, face à d'autres puissances. Et à travers le personnage et la figure d'Henry Kissinger, ce que je voulais trouver, au-delà évidemment du fait que lui-même est né européen, c'était quelles leçons aujourd'hui l'Europe peut tirer, à la fois de la vie d'Henry Kissinger, mais également de son action pour bâtir une diplomatie plus forte, une forme de réelle politique européenne, et on pourra revenir,
on va revenir sur le terme, bien sûr.
Et donc, c'est ce que j'ai cherché, en fait, à travers ce portrait, un petit peu, c'était un des fils directeurs du livre.
Alors, une chose importante à dire quand on, vous le développez dans le livre, quand on parle d'Henry Kissinger, c'est que ça a été un responsable politique, un diplomate de haut rang, de haut niveau, mais ça a aussi été un penseur des relations internationales.
Tout à fait. C'est quelqu'un qui est, je le décris un petit peu comme un intellectuel homme d'action. Et pour moi, c'est fondamental parce que je pense que si Henry Kissinger, qui arrive au pouvoir aux responsabilités en 1969, a été capable d'écrire l'histoire, a été capable de penser sa diplomatie dans le temps long et de manière stratégique, c'est parce qu'il était doté de ce que j'appelle une colonne vertébrale à la fois intellectuelle et humaine. Et vous l'avez dit, sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui avait une vraie densité, qui avait passé 20 années à Harvard, à se construire intellectuellement, à se
plonger, étudiant et comme professeur.
Comme étudiant, puis comme professeur, à affiner sa connaissance de l'histoire, affiner sa connaissance de la philosophie politique, à fréquenter les plus grands intellectuels de son temps, y compris hors des frontières des États-Unis. C'est quelqu'un qui nouait des liens très forts avec des personnalités comme Hannah Arendt, George Kennan, Hans Morgenthau ou Raymond Aron en France. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive avec cette forme de densité intellectuelle, qui n'est pas simplement quelqu'un qui est brillant. Oui, il est brillant, il a une capacité de synthèse extraordinaire, mais il a également des convictions. Et ça, c'est le premier pan. Et puis, le deuxième pan, le pendant de cette densité intellectuelle, c'est cette densité humaine. C'est quelqu'un qui, d'abord, arrive aux responsabilités. C'est un homme qui, je l'ai dit, a connu la Shoah, a connu le statut de réfugié. Quelqu'un qui a connu donc des épreuves extrêmement tragiques. Mais c'est aussi quelqu'un qui a connu des échecs plus personnels. C'est quelqu'un qui a divorcé, qui a eu un premier mariage qui a été un échec complet. C'est quelqu'un aussi qui a une carrière professionnelle qui n'était pas si évidente. Lorsqu'il est arrivé à Harvard, il était un petit peu méprisé par l'intelligentsia WASP de l'époque. Lui, le juif allemand avec un accent bavarois à couper au couteau, c'est quelqu'un qui, ça a été oublié, mais en 1960, cherche désespérément à rentrer dans l'équipe de Kennedy, parmi the best and the brightest, comme on les appelait à l'époque, et on ne lui fait pas la place. La porte se ferme. Et Johnson, il essaie à nouveau de rentrer dans l'administration de Johnson et la porte se ferme à nouveau. Et donc, c'est quelqu'un qui est, et je trouve que c'est en cela qu'il est extrêmement intéressant, c'est aussi le produit d'échecs et de tragédies. Ça n'est pas un parcours linéaire.
Oui, c'est le parcours d'un être humain aussi, tout simplement. Jérémy Gallon, vous avez cité le nom de Raymond Aron il y a un instant. Dans quelles circonstances Kissinger et Raymond Aron se sont connus?
Raymond Aron était quelqu'un qui essayait constamment de comprendre les autres cultures et notamment les États-Unis. Et donc il voyageait beaucoup aux États-Unis pour rencontrer les intellectuels américains de son époque, mais aussi les responsables politiques. Et dans les années 50, il se rend aux États-Unis, au Massachusetts, pour rencontrer celui qui, à l'époque, n'est qu'un jeune sénateur à qui on promet un très bel avenir, qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Et à l'occasion de ce voyage dans le Massachusetts, on lui dit « Mais tu devrais aussi rencontrer un jeune professeur d'Harvard avec qui tu vas bien t'entendre, vous partager un goût de l'histoire commun. » Et c'est comme ça qu'il fait la connaissance d'Henry Kissinger. Et à partir de là, va naître une amitié intellectuelle très profonde qui ne sera pas privée de certains désaccords. Il y aura des désaccords de fond très forts que Raymond Aron n'hésitera pas notamment à exprimer dans certains éditoriaux très durs du Figaro.
Notamment sur la détente, on va y revenir.
Notamment sur la détente. Mais c'est une relation entre les deux hommes assez passionnante qui s'établit.
Alors je vous propose d'écouter Raymond Aron dans cette émission. On va l'écouter deux fois. On va l'écouter tout de suite. C'est un extrait d'un entretien diffusé en 1975 dans lequel Raymond Aron dit ceci.
Il est très difficile avec Kissinger de savoir ce qu'il pense réellement, parce qu'il a tendance à dire à chacun ce que celui-ci veut entendre, ou tout au moins
même
ce que celui-ci interprétera de la manière la plus favorable pour lui, Kissinger, même avec moi. Oui, même avec moi, en dépit de relations de 25 ans, j'ai souvent l'impression qu'il me dit ce qu'il pense susceptible de m'apaiser, entre guillemets, ou de me faire plaisir, entre guillemets.
Jérémy Gallon, vous qui êtes un jeune diplomate, c'est comme ça que l'on doit faire quand on est diplomate?
Je ne sais pas si c'est ce que l'on doit faire, mais il est certain que Henry Kissinger était connu pour, et notamment lors de ses tractations diplomatiques au Moyen-Orient, pour ne pas toujours dire exactement la même chose à ses différents interlocuteurs. C'était Shimon Peres qui avait une très belle phrase. Il disait, on a l'impression que Henry Kissinger nous dit toujours la vérité, mais si on regarde vraiment dans le détail, chaque mot, l'un après l'autre, on s'aperçoit que non, ce n'est pas toujours exactement la vérité. Mais je pense que, pour revenir sur les propos de Raymond Aron, ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes avaient une vraie estime intellectuelle, l'un pour l'autre. C'est deux personnes qui étaient évidemment extrêmement structurées et avaient cette densité intellectuelle, mais ce sont deux hommes qui, à un moment donné, vont avoir des parcours de vie différents. Aron à l'indépendance de l'intellectuel, alors que Kissinger est aux responsabilités, qui plus est à la tête de la diplomatie de la première puissance mondiale, et que donc il a des choix extrêmement difficiles à faire.
Jérémy Gallon, dans ce livre, dans lequel il y a plusieurs entrées, mais qui est aussi un livre chronologique, une biographie intellectuelle d'Henry Kissinger, vous expliquez comment Henry Kissinger est passé de son statut d'intellectuel, prof à Harvard jusqu'en 1968, à la politique. Vous pouvez nous l'expliquer ?
C'est un cheminement progressif. Kissinger est quelqu'un qui... très vite s'aperçoit, lorsqu'il est à Harvard, qu'il passe sa thèse de doctorat, qui est consacrée à Metternich et Castlereagh, qu'il ne pourra pas se satisfaire simplement des petites luttes intestines du monde académique. Il lui en faut plus. Et donc, il se rend une première fois à New York dans les années 50. Il va contribuer à l'époque à un think tank très influent aux États-Unis, le Council on Foreign Relations.
Un laboratoire d'idées, comme on dit.
Un laboratoire d'idées, oui. Tout à fait. Où il va réfléchir à la grande question de son temps, qui est la question de la prolifération nucléaire. Et à cette occasion, il développe une amitié avec un personnage qui est peut-être tout le contraire de ce qu'il est. C'est Nelson Rockefeller, qui à l'époque est le gouverneur de New York, un des plus grands héritiers américains. Là où Kissinger est un petit garçon, est un désormais un jeune homme, mais juif, avec un accent allemand, réfugié, Nelson Rockefeller incarne au contraire toutes les élites américaines dans ce qu'elles ont de puissante. Et pourtant, les deux hommes vont énormément s'apprécier. Il va y avoir un lien qui va se nouer entre les deux hommes. Et je le mentionne parce que c'est très important. Kissinger va dire, en rencontrant Rockefeller, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence. Kissinger savait qu'il était brillant intellectuellement. Mais auprès de Rockefeller, il va s'apercevoir qu'il y a une autre intelligence qui s'appelle le charme, qui s'appelle la capacité à séduire. Et il dira, peut-être que Rockefeller avait une intelligence intellectuelle de troisième catégorie, mais il avait en revanche une intelligence dans la séduction humaine de première catégorie, ce que Kissinger n'avait pas. Et donc, il va beaucoup apprendre aux côtés de Rockefeller, il va s'engager politiquement à ses côtés. Et d'ailleurs, l'ironie, c'est que lorsque Rockefeller se présentera aux primaires du Parti républicain, il sera défait par Nixon. Le soir de la défaite de Rockefeller, Kissinger versera des larmes de colère, alors que quelques mois plus tard, il deviendra le conseiller à la sécurité nationale de Nixon.
Ce qui a été mal ressenti dans l'équipe de Rockefeller, évidemment.
Ce qui a été vu comme une trahison, ouais, par les personnes proches de Rockefeller. Le seul qui l'ait encouragé à l'époque, c'est Nelson Rockefeller lui-même, qui avait beaucoup d'estime pour Henry Kissinger, considérait qu'il avait quelque chose au fond de lui d'assez exceptionnel, et qui lui a dit, alors que Henry Kissinger avait demandé à Nixon quelques jours avant de lui donner sa décision, avant de lui répondre sur son offre de service, lui a dit, on ne fait pas attendre un président américain, ton devoir est de servir les États-Unis, tu dois aller travailler pour Nixon.
Alors, la rencontre de Nixon est déterminante, évidemment.
Évidemment, rencontre de deux personnages également extrêmement différents. Nixon, c'est quelqu'un qui naît dans les classes moyennes assez modestes de la Californie, Quaker, quelqu'un qui est un pur politique, qui a été le vice-président d'Eisenhower, qui a connu une traversée du désert durant quelques années. Il a été battu au présidentiel par Kennedy en 60. Il a également été battu même lorsqu'il s'est présenté pour devenir gouverneur de Californie. Donc c'est quelqu'un qui... a aussi suscité beaucoup le mépris des élites américaines. Les élites libérales méprisent Nixon. Tout l'écosystème, en fait, de Kissinger. À Harvard, les équipes de Rockefeller méprisent Nixon. Et pourtant, ces deux hommes, il va y avoir une alchimie qui va se créer entre deux. Et je pense que ce qui va lier, finalement, Nixon et Kissinger, c'est l'amour de la politique étrangère, l'amour de la diplomatie. Aujourd'hui, la figure de Nixon est une figure qu'on a un petit peu oubliée ou... tout du moins, on a voulu la limiter au seul scandale du Watergate. Mais ce qu'on a oublié, c'est que Nixon est probablement un des présidents de l'histoire américaine qui était le plus doué en matière de politique étrangère. C'est quelqu'un qui y consacrait beaucoup de temps.
D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs d'écouter ou de réécouter un numéro d'idées que nous avons consacré à Nixon avec l'historien français Antoine Coppolani, qui a écrit une biographie de Nixon.
Tout à fait. Et Nixon, c'est quelqu'un qui consacrait voilà, beaucoup de temps à chaque jour, 3-4 heures, à échanger avec Kissinger sur les différentes options de politique étrangère. Et d'ailleurs, l'homme qui a pensé le rapprochement avec la Chine en 1972, ça n'est pas Kissinger, c'est Nixon.
Eh bien justement, la transition est faite. Je vous remercie, Jérémy Gallon. Je vous propose d'écouter une correspondance de France Inter datée du 28 février 1972, au dernier jour d'une visite absolument historique de Richard Nixon en Chine.
À Pékin, le président Nixon et le premier ministre chinois, M. Chuanlai, ont implicitement réaffirmé aujourd'hui la volonté des États-Unis et de la Chine populaire de poursuivre le dialogue et de normaliser leurs relations après cette visite. C'est du moins le sentiment des observateurs après le banquet offert par le président Nixon en l'honneur de ses hôtes chinois. Le président des États-Unis a d'ailleurs été on ne peut plus clair dans le toast qu'il a prononcé à l'issue du repas.
For almost a generation, there has been a wall.
Pendant presque une génération, un mur a existé entre l'Amérique et la Chine populaire. Au cours de ces 4 derniers jours, nous avons commencé la longue tâche d'éliminer ce mur. Quant au premier ministre chinois, M. Chuanlai, il a exprimé la détermination de son gouvernement de normaliser les relations entre les deux pays. Écoutez.
Le désir commun des Chinois et des Américains est d'augmenter leur amitié mutuelle et de développer les relations entre la Chine et les États-Unis. Le gouvernement chinois y travaille sans repos. On attend maintenant le communiqué final, un communiqué qui comprendra notamment une déclaration solennelle de coexistence pacifique entre Washington et Pékin et l'assurance que les États-Unis n'ont aucune visée territoriale, militaire ou politique en Extrême-Orient et dans le Sud-Est asiatique.
Nous parlons aujourd'hui avec notre invité Jérémy Gallon d'Henry Kissinger. On peut parler de moments historiques. Cette visite de Richard Nixon en Chine en février 1972 est un véritable moment d'histoire qu'Henry Kissinger a préparé attentivement.
Henry Kissinger a préparé effectivement très attentivement, puisqu'en 1971, il s'est rendu à deux reprises à Pékin. Notamment, le premier voyage est un voyage secret. Via le Pakistan, et ça aura une importance considérable, notamment dans le rôle que joueront les États-Unis par rapport au Pakistan dans la guerre civile au Bangladesh. Mais effectivement, Kissinger se rend au Pakistan, il prétexte un malaise pour dire à la presse que finalement il va se reposer dans les montagnes du Pakistan, et en fait, à ce moment-là, il en profite pour partir à Pékin, et il va rencontrer Chuanlai à cette occasion-là. Et avec Chuanlai, ça va être une amitié extrêmement forte qui va se nouer entre les deux hommes, une amitié faite de beaucoup d'estime sur le plan intellectuel. Et surtout, ces hommes vont poser les fondations d'un rapprochement historique, vous l'avez dit, entre Pékin et Washington. C'est un coup de maître de la diplomatie américaine à cette occasion, parce que le rapprochement avec Pékin permet de transformer ce qui était un jeu bipolaire entre l'URSS et les États-Unis en un jeu tripolaire, et surtout créer potentiellement une source de division sur l'axe Pékin-Moscou. Et ça va considérablement renforcer la position américaine. Ça permet aussi d'atténuer la pression chinoise à l'époque, au moment de la guerre au Vietnam. Et donc, c'est un jeu extrêmement, extrêmement intelligent qui est mis en place par Kissinger et Nixon. De cette visite va naître également une passion immense de Kissinger pour la Chine, y compris lorsqu'il aura quitté le pouvoir, il y retournera à plus de 100 reprises. C'est quelqu'un qui va passer beaucoup de temps à expliquer la Chine aux Américains. Il est ce que les Chinois appellent un Peng Yao, c'est-à-dire un de ces vieux sages occidentaux qui ont compris l'âme chinoise. Et évidemment, aujourd'hui, à un moment de résurgence, de tension très forte entre Pékin et Washington, l'épisode du rapprochement peut être source de leçons et de réflexions. Il y a juste peut-être une petite nuance, quand on revoit un petit peu le cheminement qui amène Nixon et Kissinger à se rapprocher de la Chine et qui va faire leur gloire à l'époque, ce que Kissinger lui-même avait considérablement sous-estimé, c'est le renforcement des liens économiques. Il pensait qu'il y aurait un renforcement des liens politiques. Il ne penserait jamais que la Chine se développerait à la vitesse à laquelle elle s'est développée et qu'elle deviendrait à un moment donné le rival économique des États-Unis.
Alors, précisons que Henry Kissinger a occupé des fonctions éminentes avec Nixon sur la politique étrangère. Il a été conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'État.
Tout à fait. Il a été donc en 1969, lorsque Nixon entre à la Maison-Blanche, il propose le poste de conseiller à la sécurité nationale, c'est-à-dire le principal conseiller diplomatique du président, à Kissinger. Et donc, à partir de là, Kissinger va faire de la Maison-Blanche le vrai pôle où se dessine la politique étrangère. Il va marginaliser le département d'État américain, donc le ministère des Affaires étrangères américain. C'est aussi la volonté de Nixon, qui voulait vraiment contrôler la politique étrangère à partir de la Maison-Blanche. Et puis, ensuite, à partir de 1973, Nixon accepte de donner à la fois le poste de secrétaire d'État et le poste de conseiller à la sécurité nationale à Kissinger. À ce moment-là, Kissinger commence à avoir vraiment la haute main sur la diplomatie américaine, tendance qui va s'accentuer au moment du Watergate, parce que le Watergate est une période de déclin complet pour Nixon, qui perd en influence, qui perd les uns après les autres ses conseillers impliqués dans le scandale du Watergate. À l'inverse, Kissinger n'est pas du tout impliqué. Lui gagne donc en poids politique, et on a notamment au moment de la guerre du Kippour en 1973, l'homme qui est à la manœuvre à ce moment-là, ça n'est pas Nixon, c'est Kissinger. Également épisode assez unique dans l'histoire américaine d'un secrétaire d'État qui est, à un moment donné, plus puissant que le président. Et puis, Nixon est contraint à la démission. À la
suite en août 1974.
Tout à fait. C'est son vice-président, Gerald Ford, qui lui succède. Et Gerald Ford va décider de conserver à ses côtés Kissinger.
Alors, il y a une notion essentielle sur laquelle il faut revenir ensemble, Jérémy Gallon, dans cette émission. C'est la notion de détente à l'époque. Vous venez de parler de la Chine, de cette politique américaine en Chine, inaugurée en 1972. Henry Kissinger a aussi beaucoup réfléchi sur cette notion de détente. Il a même infléchi la politique américaine.
Tout à fait. Henry Kissinger a décidé de mener en parallèle trois axes de politique étrangère qui semblaient historiquement pour les Américains contradictoires. La première, c'était le renforcement des relations transatlantiques. Deuxième, c'était le rapprochement avec la Chine. Et troisième, la politique de détente qui consistait à apaiser les relations avec l'URSS. Le sous-jacent de ce dernier axe de politique étrangère, c'était que Kissinger considérait que le but moral ultime de la diplomatie américaine devait être d'éviter la confrontation d'un conflit nucléaire avec l'URSS. Pour lui, c'était l'objectif qui dépassait tous les autres. C'était celui qui permettrait au monde de ne pas retomber dans le chaos. Et donc, pour cela, il considère qu'il est essentiel de sortir d'une logique de pure confrontation avec Moscou, mais plutôt de développer des relations économiques qui, à terme, permettront d'une part d'apaiser diplomatiquement la relation, mais aussi permettront à une société civile d'émerger dans le bloc soviétique et, à un moment donné, créeront l'opposition nécessaire pour affaiblir le régime soviétique. C'est donc la politique de détente. Mais pour mettre en œuvre cette politique de détente, et c'est là où c'est un vrai homme d'État, ça va lui demander un courage immense parce qu'il est à la fois attaqué sur la gauche du spectre politique par tous ceux qui sont plutôt dans une politique très accommodante à l'égard de Moscou ou très isolationniste, mais aussi par toute la droite, y compris au sein du Parti républicain, des figures comme Reagan, qui l'accuse de lâcheté, de trahison, qui considère qu'il n'est pas assez dur par rapport à l'URSS. Et il va, avec Nixon puis avec Ford, se tenir à cette diplomatie dont le chef-d'œuvre va être l'acte d'Helsinki.
En 1975.
Tout à fait. Dans lequel il voit peut-être un nouveau congrès de Vienne. C'est un peu lui qui s'est nourri de la diplomatie du 19e siècle. Il se dit que l'acte d'Helsinki doit être ce qui va permettre l'équilibre des puissances. Et surtout, on a tendance aujourd'hui à l'oublier, mais dans l'acte d'Helsinki, il y a une troisième corbeille, parce que c'était, on appelait les grands axes, il y avait d'abord l'axe politique, ensuite l'axe économique, et puis le troisième axe, c'était l'axe des droits de l'homme, qui avait été un petit peu méprisé par les dirigeants soviétiques, sauf que Kissinger sait qu'il est important, et en fait, c'est à partir de cette corbeille des droits de l'homme que se structureront des mouvements d'opposition, comme Solidarnosc, comme ceux dirigés par Václav Havel en Tchécoslovaquie, et qui, ultimement, permettront aux États-Unis de remporter la guerre froide.
Cette conférence d'Helsinki redéfinissait les relations entre l'Europe, les pays européens et l'Union soviétique de l'époque.
Tout à fait. Et elle avait été voulue notamment par Moscou, qui y voyait une manière de reconnaître les frontières héritées de l'ordre de Yalta et notamment ces zones d'influence en Europe de l'Est. À l'époque, elle était très critiquée en Europe parce que beaucoup d'Européens y voyaient un peu le gel de ce monde des deux blocs. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu et ce qu'avait très bien pressenti à l'époque Kissinger, c'est que finalement, à travers l'acte d'Helsinki, c'était déjà le début de la fin. Et l'ironie de l'histoire, c'est que l'opinion publique américaine d'ailleurs ne le comprendra pas. On voudra énormément à l'époque à Kissinger, sanctionnera électoralement Ford en 76, et ceux qui récolteront les fruits de cette détente, qui seront donc finalement la victoire durant la guerre froide, c'est notamment Reagan, qui aura été pourtant son plus fervent opposant dans les années 70.
Écoutez, idée, nous parlons aujourd'hui avec notre invité Jérémy Gallon d'Henry Kissinger. Il y a un autre grand dossier de l'époque qu'a traité, pour le meilleur et pour le pire, Henry Kissinger, Jérémy Gallon, c'est le dossier du Vietnam.
Tout à fait. Là,
quand Kissinger est au pouvoir, la guerre du Vietnam fait rage.
La guerre du Vietnam fait rage et je pense qu'il faut sans nécessairement chercher à excuser ou tout justifier, mais au moins recontextualiser. Henry Kissinger, lorsqu'il était professeur à Harvard, avait voulu aller voir sur le terrain ce qui se passait vraiment. Et donc en 1965, c'est-à-dire bien avant d'entrer à la Maison-Blanche en 69, il se rend au Vietnam et il se rend compte à l'époque qu'une victoire militaire à terme n'est pas possible. Néanmoins, en 69, lorsqu'il arrive au pouvoir, et ça va lui être beaucoup reproché, il ne décide pas le retrait immédiat des troupes américaines. Il faut savoir qu'il y a déjà 500 000 de soldats américains qui sont au Vietnam. Kissinger va décider de ne pas le faire pour une raison simple. Il considère que c'est la crédibilité des États-Unis qui est en jeu. Que si les États-Unis se retirent de manière brutale, ils vont perdre leur crédibilité à l'égard de tous leurs alliés, notamment en Asie, mais dans d'autres régions dans le monde, qui vont se dire que la parole des États-Unis ne compte pour rien. Et par ailleurs, Kissinger pense avec Nixon qu'ils peuvent améliorer leur position de négociation par quelques victoires militaires sur le terrain avant de vraiment entamer les négociations de paix. Et ça va être beaucoup reproché à Kissinger parce qu'entre le moment où il arrive au pouvoir et le retrait de l'armée américaine, il y aura 20 000 soldats américains qui seront tués, il y aura des centaines de milliers de civils vietnamiens ou cambodgiens qui mourront dans les bombardements. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte de guerre froide, dans un contexte où aussi on a eu tendance à l'oublier aujourd'hui parce qu'on a l'impression que la victoire américaine était inéluctable dans la guerre froide. Mais lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche en 69, on est sur une période d'expansionnisme soviétique très fort où les Américains n'ont cessé de perdre des défaites symboliques, parfois tactiques face à l'URSS. Et donc il y a vraiment le sentiment qu'on est au bord de l'abîme.
En tout cas, il y a un accord signé à Paris le 27 janvier 1973 qui est censé mettre fin à cette guerre qui se terminera, on le sait, avec une déroute américaine et une débâcle en avril 1975. Jérémy Gallon, je vous propose d'écouter Henry Kissinger, non pas en janvier 1973, mais en juin, lors de la signature d'un additif, en quelque sorte, à cet accord.
La population de l'Indochine, et tout particulièrement du Vietnam, a souffert pendant une génération de la guerre. Notre plus grande ambition a été de mettre un terme à leur souffrance et de restaurer la paix. Nous espérons que ce que nous avons accompli aujourd'hui constituera un pas en avant important dans la consolidation de la paix au Vietnam et en Indochine.
Il faut ajouter, Jérémy Gallon, que pour cet accord, Henry Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix, partagé avec le représentant du Nord, le Ducteau. Le Ducteau n'a pas voulu de ce prix Nobel, Kissinger l'a accepté, ce qui a provoqué des polémiques à l'époque.
Ce qui a provoqué des polémiques à l'époque, en effet, et c'est là quand même une ironie de l'histoire, Kissinger reçoit le prix Nobel de la paix pour un accord qui, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement ne résout pas grand-chose à court terme, puisque 2 ans plus tard, les Américains partiront, ça sera la déroute de Saïgon. Et il y aura encore des centaines de milliers de personnes qui mourront dans la péninsule indochinoise au cours des années suivantes. À l'inverse, on parlait il y a un instant de l'accord d'Helsinki, qui est historiquement sa grande victoire dans le long terme, qui est vraiment ce qui en germe permettra la victoire américaine lors de la guerre froide, et ça lui vaudra à son époque l'inimitié de ses contemporains, la défaite politique, et l'amènera à devoir quitter le pouvoir. Et je crois que Kissinger était tout à fait conscient que parfois, eh bien, il fallait mettre en œuvre des politiques, des diplomaties qui ne sont pas nécessairement populaires à court terme, mais qui, à long terme, permettent d'écrire l'histoire et de vraiment défendre les intérêts, en l'occurrence, des États-Unis.
Alors là, il faut s'arrêter à cette notion de realpolitik, puisqu'il s'agit de cela. Henry Kissinger a été critiqué. On a dit de lui qu'il était un criminel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le coup d'État du Chili en 1973, renversement de Salvador Allende. Il y a eu le soutien au Pakistan en 1971, lors du génocide du Bangladesh. Il y a eu l'invasion du Timor oriental par l'Indonésie. Il y a des zones d'ombre dans la politique d'Henry Kissinger. En tout cas, des actes, des actions, des décisions fort critiquables.
Tout à fait. Henry Kissinger, c'est effectivement, vous l'avez dit, quelqu'un qui est critiqué aujourd'hui, notamment lors de la guerre civile au Bangladesh. On l'a dit tout à l'heure, il ne s'oppose pas au Pakistan qui va commettre un véritable génocide au Bangladesh. Lors de l'invasion brutale du Timor oriental par l'Indonésie, il est au courant des opérations qui se préparent. Il ne s'oppose pas à Suharto quand celui-ci décide d'envoyer ses troupes au Timor oriental. Il y a évidemment le coup d'État contre Allende au Chili et le soutien au régime de Pinochet, également le soutien à la junte militaire de Videla en Argentine, oui, et même au cœur de l'Europe, le soutien à un coup d'État contre Makarios à Chypre. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais tout ça, je pense qu'il faut s'en chercher une nouvelle fois à l'excuser ou à cacher quoi que ce soit, mais le recontextualiser. L'exemple du Bangladesh, par exemple, est intéressant parce qu'on ne peut pas à la fois condamner Kissinger pour ne pas s'être opposé au Pakistan, au Bangladesh, et en même temps le louer pour le rapprochement avec la Chine. Parce qu'à l'époque, son seul canal de communication avec le régime chinois, c'était le Pakistan. S'il s'aliénait le Pakistan et Islamabad, il perdait donc la capacité à faire le rapprochement avec la Chine. De la même manière, si on regarde le Timor oriental, effectivement, il ne s'oppose pas à la politique de Suharto de répression au Timor oriental, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Indonésie est le dernier domino du monde occidental en Asie du Sud-Est. Si l'Indonésie tombe aux mains des communistes, c'est toute l'Asie qui tombe derrière. Et donc, il prend des décisions qui peuvent être critiquables et doivent être critiquées, mais toujours dans une logique de long terme qui est celle du conflit face à l'URSS. Et en ce sens, je dirais qu'il y a une forme d'éthique de responsabilité chez Kissinger. C'est quelqu'un qui a pris des décisions, et chacun est libre de porter un jugement moral sur celle-ci, mais il savait très bien qu'elle lui vaudrait l'opprobre de ses contemporains, la haine d'une grande partie de l'intelligentsia, mais il les a prises parce qu'il pensait qu'elle répondait à l'objectif moral ultime qui était d'éviter que le monde retombe dans le chaos, comme ça avait été le cas lors du nazisme et comme ça aurait pu être le cas s'il y avait une confrontation nucléaire entre les deux grands. Et quelque part, c'est assez, je trouve, touchant parce que Kissinger était tout à fait conscient de la haine qu'il générait, notamment parce qu'il avait consacré sa dissertation de doctorat à deux grands diplomates du 19e siècle, Metternich, on en parle souvent, mm-hmm. le grand ministre des Affaires étrangères.
Celui qui a un peu embêté Napoléon.
Qui a un peu embêté Napoléon, mm-hmm. tout à fait, notamment post-guerre napoléonienne et qui a été l'architecte du Congrès de Vienne, mais aussi Castlereagh, qu'on connaît moins en France, qui a été le grand ministre des Affaires étrangères de l'Empire britannique, celui qui, avec Palmerston, a posé finalement les fondations de la grande puissance britannique du 19e siècle. Et en fait, Castlereagh était aussi un réaliste. C'était quelqu'un qui a posé une politique étrangère britannique qui, à terme, lui ont valu les éloges de ses contemporains, mais à l'époque, lui valurent la haine de l'intelligentsia de l'époque, et notamment de Lord Byron, qui avait eu des mots très durs à son égard. Et en 1822, Castlereagh, qui supportait mal l'opprobre de ses contemporains, s'était suicidé en se tranchant la gorge avec un coup de papier. Et je pense que l'exemple de Castlereagh était constamment présent à l'esprit de Kissinger. Et malgré cela, malgré cette connaissance intime qu'il serait lui-même haï, il a pris des décisions très difficiles.
C'est cela, la réelle politique, Jérémy Gallon ?
La réelle politique, c'est la capacité, effectivement, à prendre des décisions parfois très difficile, mais c'est surtout une notion, la réelle politique, qui, je pense, est souvent caricaturée. C'est devenu un peu ce que j'appelle un mot valise, où on projette beaucoup de choses. Si on revient au terme même, le terme de réelle politique est utilisé pour la première fois par un intellectuel allemand qui s'appelle Rochow en 1853, qui dit que c'est simplement une méthode d'action fondée sur une analyse très rationnelle de la situation, qui suppose d'essayer de comprendre les circonstances politiques, historiques, économique d'une situation donnée pour derrière développer une forme de politique. Et ça suppose d'éviter toute forme d'auto-illusion ou d'idéologie. Et le fait est que la réelle politique, parce qu'elle est, le concept est fondé au milieu du 19e siècle en Allemagne, le premier à l'incarner, ça va être Bismarck. Et donc on va projeter sur cette notion de réelle politique des traits qu'on associe aujourd'hui communément à Bismarck. Mmh. Le cynisme, une forme de machiavélisme, etc. Mais en fait, la réelle politique, ça n'est pas ça. C'est une forme de réalisme. Et d'ailleurs, Kissinger était tout à fait conscient du fait qu'on projetait souvent quelque chose qui était assez faux dans le concept de réel politique et ne l'utilisait jamais. Et il l'utilisait d'autant moins qu'il savait très bien que lui, réfugié d'origine allemande aux États-Unis, si on décrivait sa politique comme étant de la réelle politique, ça serait souvent utilisé par certains Américains pour la décrire comme anti-américaine, sa diplomatie. Il voulait éviter cela.
Je voudrais que nous continuions, Jérémy Gallon, à parler de la personnalité de Henry Kissinger. Je propose de retrouver cette fois Raymond Aron, qui parle, toujours dans une interview diffusée en 1975, des relations entre Nixon et Kissinger. Comment s'entendaient-ils ? Comment le couple, en quelque sorte, vivait-il dans cet univers politique ?
Je dirais que Kissinger avait besoin de Nixon. Kissinger est un opérateur, mais Nixon était l'homme qui a pris un certain nombre de décisions majeures. En deuxième lieu, Nixon était nécessaire à Kissinger en tant que bouc émissaire. C'est-à-dire, on pouvait rejeter sur Nixon la responsabilité de tout ce que l'on n'aimait pas dans la politique de Kissinger. Je lui ai dit un jour qu'il était un cas unique à beaucoup d'égards, mais particulièrement à l'égard suivant, c'était la première fois que le conseiller secret du prince attirait sur lui toute la popularité et rejetait sur son maître toute l'impopularité. Et Kissinger avait tous les bénéfices des sentiments libéraux qu'on lui attribuait. Il était l'ambassadeur auprès des libéraux. En ce sens, il a beaucoup perdu.
Oui, c'est cela, justement.
Donc, il a beaucoup perdu parce qu'aujourd'hui, il est exposé en première ligne. Et comme Nixon a disparu, on lui impute aujourd'hui, à tort ou à raison, un certain nombre des illégalités qui ont été commises du temps de Nixon et auxquelles il a plus ou moins participé.
Vous êtes d'accord avec cette vision de Raymond Aron ?
Oui, comme souvent avec Raymond Aron, c'est lumineux comme analyse. Effectivement, il y a une relation qui est très complexe entre les deux hommes. Ce sont deux hommes qui, on le disait avant, s'estiment intellectuellement, même s'ils sont extrêmement différents, avec un Kissinger qui va susciter un enthousiasme autour de sa personnalité extraordinaire. Au début des années 70, il est élu 3 années de suite l'homme le plus populaire des États-Unis. Et en fait, il amène dans l'administration Nixon une touche quasiment de glamour, de popularité, qui au départ sied très bien à Nixon, parce qu'il en a besoin. Et puis, pour Nixon, finalement, avoir lui qui a toujours été haï, méprisé par les élites intellectuelles américaines, avoir Kissinger, c'est avoir été capable d'attirer dans ses filets un esprit brillant d'Harvard.
Un signe extérieur de richesse intellectuelle, en quelque
sorte.
Tout
à fait, tout à fait. Mais très vite, la relation entre les deux hommes va aussi être faite d'incompréhension, de jalousie. Et Nixon va de moins en moins bien vivre la popularité grandissante de son conseiller. Et par ailleurs, il va y avoir une relation qui va être parfois un petit peu plus perverse, où Nixon, qui était une figure extrêmement pleine de contradictions,
très complexe,
qui s'était entouré notamment de conseillers d'obédience juive, Kissinger en est un, mais il avait aussi une de ses plumes, Sapphire, qui était également un conseiller d'obédience juive. Il admirait des grandes figures juives comme Disraeli, comme Frankfurter, etc. Pour autant, il tenait également régulièrement des propos antisémites, y compris devant Kissinger. Et Kissinger, d'ailleurs, on lui a reproché de n'avoir jamais réagi. Kissinger avait un peu un esprit courtisan devant Nixon. Et il considérait qu'il fallait parfois mieux jouer un petit peu le jeu de cour plutôt que d'antagoniser Nixon et perdre la relation spéciale qu'il avait avec le président. Et c'est une relation qui durera jusqu'à la fin. Il y a cette scène assez bouleversante. Le jour où Nixon démissionne, Kissinger vient le voir une dernière fois dans le bureau ovale et les deux hommes sanglotent côte à côte et ils décident de prier ensemble. Et ensuite, Nixon quitte la Maison Blanche, Kissinger restera au pouvoir. Mais il y avait un lien très fort entre les deux hommes.
Alors avant de revenir sur la personnalité d'Henry Kissinger, Jérémy Gallon, il faut dire un mot quand même sur ce qu'il a créé, Henry Kissinger, dans la façon de négocier. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie de la navette au Proche-Orient, après la guerre du Kippour, donc l'attaque égyptienne et syrienne contre Israël, où là, Kissinger a laissé libre cours à son imagination et à sa puissance de travail.
Tout à fait. La guerre du Kippour a lieu, ce qui d'ailleurs prend par surprise complètement Kissinger, qui avait notamment complètement sous-estimé Sadat. Comme la plupart des élites américaines, mais aussi israéliennes, y compris Golda Meir, il avait une forme au départ de mépris à l'égard de Sadat, qui était vu comme une pâle copie de Nasser. Et en fait, Sadat va tous les surprendre. Et au moment de la guerre du Kippour, Kissinger, qui est désormais secrétaire d'État, va très vite s'imposer comme l'homme de la paix. Il va d'abord renforcer les relations entre Le Caire et Jérusalem, puis ensuite il va accomplir une diplomatie de la navette, qui était cette diplomatie qui consistait à constamment voyager en avion d'une capitale à l'autre. Il l'essaiera avec Damas, sans succès avec Hafez el-Assad, également avec la Jordanie du roi Hussein à l'époque, et son avion pendant quelques semaines dans ces périodes-là devient son bureau. Il épuise ses collaborateurs qui travaillent jour et nuit, mais avec des succès diplomatiques réels, et notamment le rapprochement entre l'Égypte et Israël, qui aboutira finalement sous Carter aux accords de Camp David. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que autant il avait méprisé et probablement mal compris Sadat au départ, autant il va ensuite, apprenant à connaître l'homme, profondément admirer le leader égyptien, à tel point que ça sera un des hommes qui aura vraiment une influence marquante sur sa vie jusqu'à l'assassinat de Sadat en 81.
Alors terminons, Jérémy, cette émission avec la personnalité d'Henry Kissinger que vous développez aussi dans le livre. Alors là, je vous propose d'écouter une anecdote racontée par le photographe, le grand reporter photographe Patrick Chauvel, qui, ça se passe en 1973, et écoutez-le, il dit quasiment tout.
Un jour, je faisais une pige pour François, parce qu'évidemment, au milieu de tout ça, il fallait gagner un peu de fric quand même. Et Kissinger était venu à Paris, les accords, les fameux accords sur le Vietnam. Et à 13h, les accords s'arrêtaient pour reprendre 3 heures après, et ils disparaissaient. Et comme j'avais une moto, François m'a dit, essaye de voir quelle est la blonde avec qui il a rendu, parce qu'il est célibataire, extrêmement connu et riche, brillant. Et donc, et à chaque fois, on le perdait. On faisait des courettes, mais les motards s'interposaient, on n'arrivait pas à l'attraper. Et un jour, je le perds au Trocadéro, donc je vais rue de la Tour chez mon grand-père, flic en bas, pièce d'identité, flic en haut. Mon grand-père, pareil, me fait, ah, bon, bah, tu poses tes appareils photos, tu viens dans le salon et tu écoutes. Et la blonde, c'était Kissinger. Et en fait,
la blonde,
c'est mon grand-père, pardon, qui était chauve comme un œuf. Et en fait, Kissinger était intelligent. C'est-à-dire qu'il est allé voir le type qui avait fait exactement la même chose que lui en 54. Et c'était, les Vietnamiens, c'était les mêmes. Et donc voilà, tous les après-midi, il allait écouter, comprendre comment fonctionnaient les Vietnamiens, etc. Donc après, je ricanais quand je voyais tous les journalistes partir à la poursuite pour retrouver la blonde au gros sein, qui en fait, c'est vrai que mon grand-père avait peut-être des seins, mais il n'était pas blond.
Le grand-père de Patrick Chauvel, donc, était Jean Chauvel, grand diplomate qui a négocié au moment des accords sur l'Indochine. Ça en dit beaucoup, ses propos disent beaucoup sur Kissinger, non ?
Ses propos disent en effet beaucoup sur Kissinger parce que c'est quelqu'un qui... Alors, à la fois, a été ce sexe symbole très improbable dans les années 70, qui passait son temps à sortir avec des actrices d'Hollywood.
C'était une véritable star. Hein,
c'était une véritable star. Il était dans les pages glamour de tous les magazines People de l'époque. Il aimait fréquenter tout Hollywood, Kirk Douglas, etc.
Et être entouré de jolies femmes.
Mais en même temps, il était aussi connu pour, à chaque fois, les ramener chez elle assez tôt dans la soirée, et ensuite repartir travailler. Parce qu'au fond, déjà à l'époque, il était amoureux d'une femme qui va devenir sa seconde épouse, Nancy McGuinness, sur laquelle, en revanche, cette relation était extrêmement discrète. Et donc, il aimait ce côté un peu apparat. Il aimait aussi, probablement, il avait été fasciné par la figure du grand séducteur qui était Metternich. Je pense que l'idée d'être le Metternich du XXe siècle l'amusait aussi, mais au fond, c'était un bourreau de travail. Et donc, l'anecdote, effectivement, révèle ces deux aspects, à la fois l'homme qui, en apparence, peut être facétieux, mais au fond, ne pense qu'à la manière de défendre l'intérêt des États-Unis.
L'homme qui avait appris, en quelque sorte, à avoir de l'humour.
Il a appris à avoir de l'humour parce que, très jeune, il a compris que être le plus brillant ne lui permettrait pas de réussir, que ça susciterait beaucoup de jalousie, mais qu'il faut parfois charmer, séduire, et que l'humour peut être une arme redoutable à cet égard. Et l'humour n'était pas inné chez lui, il a travaillé, notamment l'autodérision, et ça ne l'a pas empêché régulièrement d'être arrogant, colérique, mais au fond, avec une touche d'humour, il arrivait à faire passer beaucoup de choses, et ça a été aussi un de ses génies diplomatiques, et je crois que les grands diplomates doivent toujours savoir jouer aussi sur l'humour.
Merci, vous avez retenu la leçon ?
J'essaie.
Merci Jérémy Gallon. Votre livre s'intitule « Henry Kissinger, l'Européen ». Je le conseille vivement. Il est publié chez Gallimard. Et quel personnage que ce Henry Kissinger. Merci Jérémy Gallon.
Merci beaucoup.
Idée, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'émission ou à l'adresse suivante.
Idée au pluriel. @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées, mais dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.
RFI.